Seigneur, tu nous as déjà beaucoup parlé ce matin à travers les interventions des frères et sœurs. Tu nous as parlé déjà et nous sommes déjà heureux, contents, joyeux de ta parole. Je te remercie vraiment, Seigneur, pour cette liberté que tu nous donnes dans cette église, que chacun puisse apporter une interprétation, une lecture biblique, un témoignage. Et ensemble, nous voyons que tu nous parles, et tu nous parles beaucoup. Merci d'ouvrir nos oreilles à tout ce que tu nous as dit ce matin, et je te remercie par avance. Je remets entre tes mains ce message, avec les limites humaines qui va être porté. Je te prie de le sanctifier, et que chacun de mes frères et sœurs, et moi-même, nous ne gardons que ce qui vient de toi, mais tout ce qui est humain soit mis de côté. C'est ma prière en ton saint nom. Amen. Alors le message d'aujourd'hui est venu à la lecture, je crois, deux fois, de l'épître, la lettre de Paul à l'église d'Éphèse, aux Éphésiens. Je l'ai lu cette lettre aux Éphésiens une fois, et bien je l'ai relu une deuxième fois, et depuis mardi dernier, vous savez, on avait terminé l'étude de l'évangile de Marc et nous sommes attaqués. Voilà, si Victor m'entend aussi, il va me dire, oh là là, il ne faut pas utiliser le mot attaquer. Et nous avons commencé, l'épître de Paul aux Éphésiens. Je vous invite à la lire, je vous assure. Il y a 6 chapitres, ce n'est pas beaucoup. Mais quand je la lis, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, mais depuis que je suis chrétien, mais là, dernièrement, je l'ai lu deux fois. Eh bien, tout simplement, cette lettre d'Éphésiens répond à nos questions. Si, par exemple, si on se pose la question, mais comment le Seigneur veut que ça soit l'Église, hein? On ne sait pas. Mais je ne sais pas, moi j'entends tellement de messages, mais je ne sais pas comment... L'Église, vous dites, l'Église qui va monter au ciel, tout ça, mais elle est comment? Comment il la voit, le Seigneur? Ou une autre question, je ne sais pas où j'en suis. Mais je suis chrétien, mais des fois j'ai des doutes, je ne sais pas, je vais au ciel, je ne sais pas, voilà. Eh bien, lisez l'Épître aux Éphésiens. Je vais vous faire un petit résumé, ce que Dieu a permis que je comprenne. Mais c'est loin de ce que le Seigneur veut nous dire, vous avez compris. Mais en tout cas, moi ça a répondu. Si nous voulons savoir comment est l'Église telle que le Seigneur la veut, la lettre aux Éphésiens. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'un chrétien, l'Église aux Éphésiens. Les autres parlent aussi, mais en tout cas celle-là. Alors il faut savoir que l'épître, ce qu'on appelle la lettre à l'Église d'Éphèse, elle fait partie des épîtres qu'on appelle des épîtres de la captivité. On estime qu'il y en a 4. Qui sont écrites par Paul quand il était en prison. Donc vous imaginez bien que le cœur était vraiment dans la souffrance, dans l'enfermement, et parce qu'il était en communion avec Dieu qu'il a écrit. Ça a encore plus de valeur, encore, cette lettre. Donc parmi les lettres qu'on appelle les épîtres de la captivité, je peux vous citer les Colossiens. D'ailleurs, si vous lisez Colossiens, il y a une ressemblance à Éphésiens. D'ailleurs, elles se ressemblent, et c'est les personnes qui étaient présentes avec Paul sont citées aussi chez les Colossiens. C'est les mêmes. On estime qu'il l'a écrite le même jour à deux églises différentes. C'est aussi les Philippiens et l'épître à Philémon. Voilà les épîtres de la captivité. Éphèse correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est très intéressant. C'est notre monde, Éphèse. Quand il écrit à Éphèse, l'église d'Éphèse, en fait, il écrit à tous les chrétiens de toutes les générations. Le Seigneur, à travers Paul, il écrit à tous les chrétiens de toutes les générations, c'est-à-dire aujourd'hui pour nous. Donc ce qui est écrit dans l'Église d'Éphèse, ça nous concerne, nous. Donc il faut savoir, Éphèse, c'est la Turquie actuelle, c'est un port maritime commercial connu, c'est une ville, on va dire, cosmopolite. On va trouver de tout. On va trouver les religieux, on va trouver les scientifiques, les athées, on va trouver les juifs, il y a eu une église, bien entendu. Mais en même temps, on va trouver le temple de la déesse Diane. L'église d'Éphèse est une fondation, elle est fondée par l'apôtre Paul, mais il a installé par la volonté de Dieu un pasteur, un évêque jeune durant 2-3 ans, Timothée. Donc c'est Timothée. Dieu a utilisé Paul et son jeune disciple, Timothée, pour s'occuper de cette église à Éphèse. D'après l'apôtre Paul, l'église d'Éphèse, c'est l'église telle que Dieu la désire, avant qu'elle n'abandonne son premier amour. Très important. Comment on sait que c'était l'église telle que Dieu la voulait? Il suffit de lire le livre de l'Apocalypse, la lettre aux sept églises, et à l'église d'Éphèse, il écrit, voilà, dans Apocalypse 2, versets 4 et 5, voilà ce qu'il lui reproche, le Seigneur, ce qu'il reproche à l'église d'Éphèse. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est-à-dire, le premier amour, c'est ce qui correspond à l'église à qui l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Éphésiens. Vous voyez? Mais après tant, elle a basculé vers la loi. Elle a abandonné l'amour, elle est devenue tellement rigoureuse, tout ça, lutter, etc. Elle est devenue presque une église guerrière, quoi. Alors que le Seigneur, il l'appelle juste à l'amour. Alors la lettre aux Éphésiens comportait de 6 chapitres, comme je vous ai dit, 6 chapitres. Si on exclut les salutations et les nouvelles de Paul, on peut diviser l'épître en 2 parties très liées l'une à l'autre. Et c'est ce lien que je veux mettre au point. Et ça va rejoindre ce que tu as dit, Sylvie. Dans la première partie, il s'agit de ce que l'apôtre Paul appelle « mystère de la volonté de Dieu ». Arrêté de toute éternité et qui a demeuré voilé pendant des siècles avant d'être exécuté. En sorte, en fait, l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse et il leur dit, voilà ce que vous avez reçu. Et il se glorifie de ça. Il prie le Seigneur et il est heureux, joyeux. Il dit, vous êtes vraiment l'église telle que le Seigneur la veut. Vous avez reçu le Seigneur, vous avez reçu la révélation qui était promise depuis l'éternité par l'agneau immolé. D'accord? Et maintenant que l'agneau immolé est venu au milieu de nous, physiquement, visiblement, il a donné sa vie à la croix, vous avez reçu cette révélation en vous, vous avez reçu cette nouvelle en vous, par révélation, par conviction, on parlait de conviction tout à l'heure, par conviction, et parce que vous l'avez reçu, un changement s'est fait en vous. Il ajoute, vous ne l'avez pas reçu par les œuvres, mais vous l'avez reçu par la foi, parce que c'est une grâce. C'est ce qu'il leur dit. Il leur expose ce qu'ils ont reçu. Et il parle du Christ glorifié. Il leur dit même, vous êtes déjà assis à la droite du Père. Vous lirez dans le chapitre 1 et 2. Il dit que l'église d'Éphèse, vous êtes déjà assis à la droite du Père. Vous êtes déjà céleste. Vous êtes en Christ. Mais c'est normal. Puisqu'il leur dit que comme vous êtes en communion avec Christ, si comme vous êtes une église qui a reçu Christ en vous par l'Esprit, d'accord? Et quand Christ est à la droite du Père, bah, automatiquement, vous êtes aussi à la droite du Père, puisqu'on est en communion par l'Esprit. Donc, nous sommes ce matin assis à la droite du Père avec Christ. Puisque Christ nous dit, il est en nous par l'Esprit, et bien nous sommes assis à la droite du Père dans l'Esprit. Donc, spirituellement, nous sommes assis à la droite du Père. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est déjà riche. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on est riche. On se comporte comme des chrétiens pauvres, mais non, nous sommes riches. Colossiens nous dit que nous sommes bénis de tout. Nous avons tout pleinement en Christ. Il ne manque rien. Ça, c'est une réalité spirituelle. Quand on se convertit, quand on reçoit le Seigneur, nous avons reçu Christ et nous avons tout reçu en lui. C'est-à-dire, nous avons même reçu notre position dans le ciel. Nous le sommes en ce moment. Et c'est ça, la joie qui dépasse ce qu'on ne pourra comprendre. Mais n'oublions pas que les salutations de l'apôtre Paul ont une signification quand même. Parce que quand j'ai lu les salutations de Paul dès le début, il dit, Paul, enfin, on voit que dans la lettre, vous pouvez le lire, il s'adresse aux chrétiens comme étant fidèles en Jésus-Christ. Aux fidèles en Jésus-Christ. Dès le début, commence comme ça. Aux chrétiens fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. C'est-à-dire, qui dit fidélité, dit amour. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il fait le parallèle avec le mariage et le couple plus tard. Si nous sommes fidèles, c'est que nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, c'est-à-dire un amour permanent, perpétuel, inébranlable, impérissable, malgré nos circonstances, joie ou peine. C'est ce que tu as dit, Didier, tu nous rappelles. Dans les salutations, déjà, le ton est donné par l'apôtre Paul. Parce que Dieu, le Seigneur, se glorifie dans les chrétiens qui ne le sont pas d'une manière traditionnelle ou religieuse. Ça, il n'a rien à... J'ai envie de dire, il n'y a rien à cirer de ça. Ça ne l'intéresse pas, ça, religieuse. Non, ce n'est pas les habitudes. Mais des chrétiens, mais il se plaît dans des chrétiens de cœur. Vous voyez ? Des chrétiens de cœur qui portent des fruits de l'esprit, de communion avec le Seigneur. Des chrétiens qui portent des fruits. Vous cherchez la preuve que vous êtes des chrétiens ? Vous êtes en communion avec le Seigneur ? Est-ce que vous portez des fruits ? J'ajoute. Les fruits que les frères et sœurs remarquent, pas vous-même. C'est pas cette question, je vois, est-ce que je prends des fruits? Non, non, là c'est une grave erreur. Ça, on devient, c'est la chair. Non, non, non. Est-ce que mes frères et sœurs voient des fruits en moi? Et c'est là le rôle de la communion et de l'Église. Comment je peux voir si j'ai des fruits par mes frères et sœurs si je suis tout seul, chez moi? Ou en distanciel, peut-être en visio, ils me le voient. Mais c'est en contact, dans le réel, que je vois que mes frères et sœurs, vous portez des fruits ou pas? Mais s'il n'y a pas de fruits, j'interpelle ma frère et sœur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça l'amour fraternel. Oui. C'est ça la fidélité avec le Seigneur. L'apôtre Paul nous donne quelques exemples de fruits de l'esprit. Les fruits, on en a parlé tout à l'heure. Donc Galates 5, 22. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, je vous lis, il l'écrit. Il parle des fruits de l'esprit, directement l'apôtre Paul. Là, il ne tourne pas autour du pot. Il dit, il donne des exemples des fruits de l'esprit. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Où nous en sommes avec cela? Attendez. Quand on est marié, on demande à son conjoint et sa femme. Pas à dire, ah non, non, j'ai tout ça moi. Non, 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 c'est pas ça le témoignage. Non, 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 c'est pas, mais bien sûr que je suis patient. Non. Qu'est-ce que pense l'autre de moi? C'est ça, les fruits. Qu'est-ce que pense ma femme ou mon époux? Mes enfants? Mes frères et sœurs de l'Église? C'est comme ça qu'on voit les fruits. C'est les autres qui les voient en nous. Pas nous qui les voyons en nous. Ça, c'est l'égocentrisme. C'est une maladie, ça. Il faut soigner. Hein? D'accord. Est-ce que nous portons ces fruits, ou plutôt, est-ce que les autres voient ces fruits en nous? La parole nous donne de quoi nous examiner mutuellement. Tu l'as lu tout à l'heure. Matthieu 7, 18, 20. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'apôtre Paul n'a pas dit que vous vous reconnaîtrez. Vous voyez ? C'est très important. Que vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire, c'est nous qui voyons chez les autres et les autres vont chez nous. Mais jamais on voit chez soi. On est détaché de soi. Et bien, la première question primordiale que l'apôtre Paul nous soulève à travers cette salutation, aimons-nous le Seigneur de tout notre cœur ? Est-ce que les autres voient en moi que j'aime le Seigneur ? C'est très important. Et ça, on ne peut le voir qu'en expérience dans l'Église. Notre amour pour le Seigneur ne doit pas se limiter à des mots. Des fois, les chrétiens deviennent formatés, des expressions qui sortent automatiquement. Alléluia! Amen! Non, 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 non. Ce n'est pas les mots. C'est la vie. Est-ce qu'elle témoigne de cet amour? Notre vie doit donner sens à notre amour pour Dieu. Et d'ailleurs, j'ai pris une expression courante. On le dit, vous la connaissez. On dit... En fait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Hein? C'est ce qu'on dit hein, dans le langage. Quoi. Tu parles d'amour, moi je te montre les preuves d'amour. Eh bien, les deux sont liés. Si j'aime l'amour, si j'aime Dieu, quelles sont les preuves d'amour? Est-ce qu'on le voit chez moi? Pas moi-même, mais est-ce que mes frères et sœurs, est-ce que la société, est-ce que la famille, est-ce qu'ils voient ça en moi? S'ils ne le voient pas en moi, où est-ce qu'il est le témoignage? Le premier des 10 commandements de Dieu est... Un seul Dieu, tu adoreras, tu aimeras parfaitement. Est-ce que nous adorons et nous aimons notre Seigneur, notre Dieu comme ça? Le Seigneur Jésus-Christ a rappelé cette loi. Il a dit lui-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça veut dire que c'est la priorité. Il n'y a pas au-dessus. Dans Marc, chapitre 12, verset 30. Mais cet amour pour le divin, pour Dieu, ne trouve son sens que dans l'amour de son prochain. La preuve que j'aime Dieu, est-ce que j'aime mon prochain? Parce que les deux vont ensemble. L'un explique l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il a ajouté le Seigneur dans le même passage, tu aimeras ton Dieu, dans Marc 12, 31. Et le Seigneur d'ajouter, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, les deux. Tu aimeras ton Dieu, ton prochain. Si j'aime Dieu et je hais mon prochain, j'aime pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que si j'aime Dieu, ça ne peut pas être autrement que j'aime mon prochain. Encore plus, mon frère et ma sœur. Cet amour qui donne sens à notre fidélité. Voilà la fidélité. Oui. Quand l'apôtre Paul dit « aux fidèles de l'Église à Éphèse », il est en train de dire tout cela. Ils expérimentent l'amour de Dieu, vertical, et l'amour de son prochain. Néanmoins, il faut savoir que l'amour qui nous rend fidèles à Dieu est un fruit de l'Esprit. Si nous avons l'amour pour mon prochain et pour Dieu, nous avons le principal des fruits de l'Esprit. Et cet amour pour Dieu, pour nous chrétiens, c'est la conséquence du miracle de la croix en nous. Dans ma religion d'origine, nous aimons Dieu. Mais cet amour pour Dieu, qu'on appelle amour, peut m'amener à tuer mon semblable. Où est-ce qu'il est l'amour? Vous voyez, là, le Seigneur dit non. L'amour de Dieu, tu aimes ton prochain, même ceux qui ne t'aiment pas. Alors dans ma religion, j'ai le droit de tuer celui qui ne m'aime pas par amour de Dieu. Donc ce n'est pas de l'amour de Dieu. Vous voyez? C'est la différence quand on est chrétien. C'est la conséquence du miracle de la croix en nous. C'est ce que la Bible appelle sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi? Parce que si j'aime Dieu, je ferai ce qui lui plaît. Je ne ferai pas ce qui me plaît à moi. Et si je n'arrive pas à lui plaire, je vis une tristesse en moi, que j'appelle une sainte tristesse. Lisez les Béatitudes dans Matthieu 5. Heureux les affligés quand ils seront consolés. Ça veut dire que je sais que je veux plaire à Dieu, mais ma nature ne me permet pas de lui plaire parce que je pêche. Et bien je suis triste. Et bien cette tristesse est une sainte tristesse. Parce qu'elle m'amène à la repentance devant Dieu. Et de me confesser. Et de lui demander de me transformer. Sans sanctification, mes frères et sœurs, nous ne verrons pas Dieu. Je ne fais que répéter le passage dans Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il ne faut pas se mentir. Cette nouvelle vie en nous, en tant que chrétiens, ne vient pas de nous. C'est Christ lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie qui la porte, qui l'emmène en nous. Et nous l'avons reçu depuis le jour qu'on a reçu le Seigneur. La conviction. Nous avons reçu le Seigneur, nous sommes convertis, nous sommes devenus chrétiens, alléluia, nous avons Christ, nous avons tout. Nous avons tout. C'est que le diable qui va nous faire mentir pour dire, peut-être un petit peu, non, nous avons tout reçu. Christ est tout pleinement avec lui en nous depuis le jour que nous avons dit, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. C'est un mensonge, c'est le diable qui nous fait douter. C'est son rôle. Mais le Seigneur nous rappelle, vous avez tout en moi. L'amour est le fruit de l'élection de l'église d'Éphèse. Il lui dit, vous êtes une église élue. Qu'il ne dit pas, au passage, à l'église de Corinthe. Elle était appelée cette église, elle a réalisé qu'elle était élue parce qu'elle était en communion, elle vit les fruits dans l'amour pour Dieu et pour les autres. Elle vit une transformation qui suscite l'admiration de l'apôtre Paul. Et je vous invite à lire le chapitre 2, quand il prie pour eux, quand il parle d'eux, mais c'est on a vraiment une église qui est céleste. L'église d'Éphèse a reçu la vie. Elle a reçu la révélation du Fils comme objectif divin de toute éternité. Elle vit cette transformation avec le Seigneur. Elle l'a acceptée par pure grâce, comme une pure grâce. Elle l'a saisi par la foi dans la crainte du Créateur. L'église d'Éphèse a vu ses yeux spirituels s'ouvrir sur le mystère du salut. Ils ont compris ce que ça veut dire. Christ mort à la croix, ressuscité. Rien, le plus important c'était ça pour eux, l'éternité. Le reste, cette richesse que nous avons, Dieu fait en sorte qu'on la vit ici-bas, mais dans la crainte de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est dans Éphésiens. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. L'apôtre Paul ne cesse de prier pour l'église d'Éphèse. En fait, il rendait grâce devant Dieu. En fait, il remerciait Dieu, comme vous lisez la prière de Paul, il remerciait Dieu pour cette église. Il est en train de dire, mais Christ est monté au ciel, mais non, il est là. Il est là, le Seigneur. Et vous savez, si vous cherchez le Seigneur à Éphèse, il dit, mais regardez-vous, votre église, le Christ est vivant. C'est ça, l'église. C'est sur la base de cette révélation reçue par l'église d'Éphèse que par la suite, quand il a parlé de tout ça, Paul, de cette richesse, il se réjouissait avec eux, tout ce qu'on veut. C'est sur la base de tout cela, c'est-à-dire tout est accompli, c'est-à-dire l'église, elle ne fait que rentrer dans ce qui est déjà accompli, en fait tout est disponible. La richesse est déjà là, la victoire est déjà là, tout. Quand on se convertit, c'est que le Seigneur nous ramène et dit « rentrez maintenant de ce qui est déjà prêt ». Oui, la parabole du riche qui est invité pour le festin. Tout est prêt. Allez-y les chercher, amenez-les. Mais il y en a qui disent non, j'ai pas le temps. Ou allez-y. L'église, c'est ça. On rentre dans ce qui est déjà accompli. Et d'un seul coup, on expérimente dans la pratique ce qui est déjà accompli. C'est ça la vie chrétienne. Donc il n'y a pas vraiment d'effort. Si, il y a une repentance qui cherche parce que nous aimons le Seigneur, on veut lui faire ce qui lui plaît. Mais le Seigneur nous ouvre la porte et d'un seul coup, on découvre en nous cette richesse qui était là, qui est déjà là. Et c'est celle-là qui nous transforme, que la Bible appelle les bonnes œuvres. C'est sur la base de cette révélation reçue par l'église d'Éphèse que Paul, maintenant, il peut se permettre, maintenant il se lance dans des exhortations. C'est après qu'il commence des exhortations. C'est pour ça que quand on lit l'Éphèse, faites attention, moi je le dis même pour moi, ne sortez pas des versets de leur contexte. Si je vais tout de suite dans le chapitre 5 et 6 et je commence à certer, on va se condamner. Parce qu'on oublie tout ce qui est dit avant ce que je viens de vous dire. Donc l'apôtre Paul peut maintenant se permettre des exhortations pour rappeler aux chrétiens d'Éphèse que la vie qu'ils ont reçue en Christ doit porter des fruits, dignes de la repentance et de la foi en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et il nous donne quelques éléments, l'apôtre Paul, pour, je dirais, nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Alors l'apôtre Paul, quand il leur dit, par exemple, dès le début, quand il leur dit « Marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. » Éphésiens 5, versets 1 et 2. Il est en train de dire, en fait, que nous devons revêtir l'amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs, encore une fois, comme fruit de notre salut. Donc, le premier fruit de notre salut, c'est l'amour de Dieu et pour son frère et sœur, c'est-à-dire pour ses semblables. D'abord, l'Église. J'aime mon frère, j'aime ma sœur. Si on se met à critiquer son frère et sa sœur, il y a un problème. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il est alors urgent de s'examiner, mes frères et sœurs, s'agenouiller dans la prière devant Dieu pour s'ouvrir à lui, se repentir et implorer son intervention indispensable car il s'agit de la vie qu'il nous offre au-delà mort qu'il veut nous éviter. Parmi ses recommandations, il n'invoque pas que l'amour de Dieu et de son frère et de sa sœur et même de ses ennemis. On n'est pas en train de nous dire « Allez les embrasser, vivez avec eux dans la société ». Non, nous n'avons pas à rendre le mal pour le mal. Il n'évoque pas uniquement l'amour comme fruit de l'esprit, mais aussi autre chose. Et on n'a pas envie de les lire, de les dire. Eh bien, je vais les dire. Eh bien, il dit « Attention, l'impudicité ». Le mot exact qu'il a utilisé. L'impudicité. L'amour. Maintenant, je vous demande de vous éloigner de l'impudicité qu'on trouve dans le monde. L'impudicité qui commence souvent par les mauvaises pensées. Car le germe du mal commence souvent, si ce n'est toujours, dans les pensées de l'homme. Les pensées sont le reflet du cœur. La parole nous dit. Les pensées sont le reflet du cœur. Marc, chapitre 7, verset 21-23, c'est le Seigneur qui parle. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, il les cite, c'est le Seigneur qui parle. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et l'apôtre Paul rappelle à l'église d'Éphèse. Attention, ne tombez pas là-dedans. Si vous voyez ça entre vous, il n'y a plus de fruits. Ce ne sont pas les fruits dans le bon sens. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Péché en pensée, ça fait peu de bruit, mais de gros dégâts. Attention, prévient Jésus. Je vous donne un exemple. Celui qui regarde une femme et la désire dans son cœur a déjà commis l'adultère. Et oui. C'est pas ce qui est péché, la prostitution. Non. Dès que dans ta pensée, tu commences à penser des choses vis-à-vis d'une femme, tu as déjà péché. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Voilà ce qu'il leur dit l'apôtre Paul. De même, celui qui juge silencieusement son frère, gentiment on dit ça, gentiment, n'empêche, c'est un jugement, rumine sa vengeance ou sa colère, a déjà péché contre la charité, contre l'amour. N'oublions pas qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Si c'est des mauvais fruits, se poser la question sur l'arbre. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a recommandé à ses disciples en leur disant dans le jardin de Gethsémané, voilà ce qu'il a dit à ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La solution, mes frères et sœurs, c'est la prière, c'est la méditation, c'est la recherche du Seigneur pour rentrer dans cette liberté qui nous est déjà prête, acquise. Après l'amour et l'éloignement de l'impudicité, il parle de la cupidité. C'est-à-dire le désir immodéré des choses du monde. Oh, je ne peux pas me passer de telles choses. Ou non, je les garde, mais avec Dieu. C'est question de priorité. Qu'est-ce qui est priorité chez moi? L'amour, le désir immodéré d'argent et des richesses qui deviennent nos idoles. Rappelons-nous ce que le Seigneur a dit à propos du riche dans Matthieu 19, 24. Je vous le dis encore, il est plus difficile, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et rappelons-nous ce jeune riche qui croyait en Dieu, qui était religieux. Quand le Seigneur lui a dit, es-tu prêt de tout abandonner pour le Seigneur? Il a baissé la tête, il est parti tristement. Il est toujours question de priorité dans nos vies. Après la cupidité, l'apôtre Paul dénonce quelques détails que nous négligeons. Nous négligeons, je pense. Eh bien, ça m'a parlé Éphésiens. Eh bien, il dénonce les paroles déshonnêtes et les propos insensés, y compris les plaisanteries et les blagues. C'est écrit. Plaisanterie. Oh, je vous raconte une petite plaisanterie sur l'Église, sur les chrétiens, sur Christ, sur Dieu. Oh, c'est rigolo, non? L'apôtre Paul les dénonce comme il dénonce l'impudicité, la cupidité. On ne rigole pas avec ça. Et si votre frère, votre soeur, vous avez le droit de dire, pas ça. S'il vous plaît, pas ça. Vous voyez? On ne plaisante pas avec ça. Éphésiens en parle. L'apôtre Paul les dénonce clairement et sans ambiguïté, car elles sont contraires à une conduite chrétienne digne de ce nom que la Bible appelle bienséance. Il nous incite au contraire à tenir un langage édifiant et des actions de grâce. Vous voyez les détails? On nous dit, mais c'est pas grave. C'est pas des détails. Pour résumer ses propos, l'apôtre Paul réitère, alors pour les plaisanteries, tout ça, vous lisez chapitre 5, verset 4. Voilà. Éphésiens 5, 4, vous verrez, c'est dénoncé par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul réitère ses recommandations en déclarant dans Éphésiens chapitre 5, verset 5, sachez-le bien. Il le dit bien. Regardez, comme si au cas où l'église d'Éphèse n'a pas compris, il le rappelle. Sachez-le bien. Aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La parole de Dieu est tranchante. Il n'y a pas que. L'apôtre Paul comme messager du Seigneur, nous incite à marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, verset 5. Il nous demande surtout de racheter le temps. Verset 5, chapitre 5, verset 16, Éphésiens. De racheter le temps. C'est-à-dire de ne pas reporter au lendemain ce que nous pouvons confesser et déposer au pied de la croix du Seigneur aujourd'hui. Les recommandations et les exhortations du Seigneur ne sont pas uniquement individuelles. Parce qu'il a commencé par chacun. Et bien maintenant, il va s'adresser au collectif, à l'Église. Et surtout qu'il va parler du couple et du mariage. Il s'adresse bien entendu à des chrétiens. Alors il le dit. Quand il dit aux femmes d'être soumises à leur mari, il demande en même temps au mari d'aimer sa femme. C'est réciproque. Et souvent dans les églises, on sort quand chacun veut avoir raison, il dit « Oh non, c'est écrit, tu dois être soumis à moi. » Mais c'est l'humain qui parle. Mais il oublie que la soumission, c'est « Tu dois aimer ta femme. » Il va même plus loin. Il a dit, voilà ce qu'il dit au mari. Hein? Donc, vous lisez chapitre 5, versets 25 à 27. Voilà ce qu'il dit au mari. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Quand la parole de Dieu dit à la femme, sois soumise à votre mari, eh bien, soumise, ça veut dire soumission. C'est-à-dire que le mari, il est dans une mission de communion avec le Seigneur. C'est-à-dire que le mari doit donner l'exemple qui donne envie à sa femme d'être soumise. Mais on ne l'explique pas comme ça. La femme doit être soumise. Et ça a fait des dégâts à travers les générations. L'apôtre Paul fait explicitement le parallèle entre l'union entre le mari et la femme et l'union entre le Seigneur et l'Église. Par conséquent, la mort conjugale, l'union du couple et la vie familiale doivent refléter notre union à Christ. C'est pas pour rien que le diable attaque la famille, attaque les couples. Il sait très bien que pour désagréger, pour détruire une société, il n'y a rien de tel que d'attaquer la famille. À quoi sert le mariage? Attendez, je l'ai entendu combien de fois. À quoi sert le mariage? Du moment qu'un homme rencontre, ben c'est bon, il y a l'amour, ça suffit. En plus, le mariage, c'est des papiers, il faut divorcer, etc. On se marie, on pense déjà au divorce. Oui. Pour dire, c'est le monde. Ça, c'est le diable. Mais l'Église, Dieu a dit, en fait, le mystère du mariage, c'est le mystère de l'Église avec le Seigneur. Un couple, c'est uni pour la vie. C'est l'union, c'est la communion. D'ailleurs, on le dit à la mairie, pour le meilleur et pour le pire. On efface le pire, on garde juste le meilleur. Le Christ doit être glorifié au sein du couple, au sein de la famille. La famille est le socle de toute vie chrétienne et tout simplement de tout fondement social. C'est pourquoi le diable fait tout pour détruire la famille. Et c'est ce qui se passe dans notre société, dans nos sociétés. Et l'Église est appelée à dénoncer ce mal qui range nos sociétés tout en veillant à ne pas tomber dans cette aliénation sociale et chercher à vivre en conformité avec la parole de Dieu. Je suis effaré, et je le dis du fond du cœur. Je suis effaré que même au sein de l'Église, on voit les jeunes chrétiens, je dis chrétiens, qui s'adonnent à des relations sexuelles entre eux. Et ils disent, mais non, il n'y a rien de mal. Le monde qui intègre l'Église. Il a dit, si on prend la Bible, il a dit, l'homme quittera sa mère et son père et se joindra à sa femme et devient une seule chair. C'est dans Genèse, chapitre 2. Et c'est seulement deux chapitres après, au chapitre 4, il est dit, Adam connut Ève, elle enfanta Abel. La relation sexuelle est le fruit d'une union, d'un mariage, et non avant. Et dire cela aujourd'hui, je passe pour un extraterrestre. Et la parole de Dieu, il est claire. Il dit que les jeunes, chrétiens, filles, garçons, ne doivent pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. C'est clair? Tourner autour du pot, c'est que je suis en train de donner mon interprétation. Et la parole, elle est claire. Vous voyez, le monde qui intègre l'Église. De même que les enfants sont appelés à respecter leurs enfants, car c'est l'un des commandements de Dieu, honore ton père et ta mère, De même, les parents ne doivent pas hériter leurs enfants, mais les élever dans l'amour et en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Toutes ces recommandations, exhortations, avertissements nous montrent d'une manière pratique dans cette église d'Éphèse. Pratique là. On n'est pas théorique, c'est la vie pratique. Les fruits d'une église vivante. Une église repentante. Une église qui s'inquiète de ce qui désire Dieu. Qu'est-ce qui déplaît à Dieu? Et ce qui lui déplaît, ça doit nous rendre triste. Mais si je sais que ça déplaît à Dieu, mais je le fais quand même, là je m'interroge. Est-ce que je suis prêt à porter ma croix dans ma propre vie, dans ma vie de tous les jours? La conduite sainte de l'Église conditionne son enlèvement, sa parution devant Dieu. Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est Éphésiens toujours, chapitre 5, verset 27. Cette déclaration qui s'adresse à l'Église en tant que corps du Seigneur s'adresse à nous, chrétiens aujourd'hui. C'est ce que la Bible appelle les vainqueurs. Aux vainqueurs, c'est ce que tu as lu tout à l'heure. Aux vainqueurs, je donnerai. Est-ce que nous sommes des vainqueurs à payer le prix, quitte d'être complètement coupés du monde parce que nous refusons que le monde intègre l'Église? C'est la question que nous nous posons. Je termine ce message imparfait par un passage dans la lettre écrite par Paul aux Colossiens. Colossiens qui explique Éphésiens et qui résume le message adressé à l'Église d'Éphèse et qui s'adresse à chacun de nous. C'est dans Colossiens chapitre 3, et je vais vous lire versets 1 à 10, et j'aurai terminé. Colossiens 3, 1 à 10. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, » regardez le « si », hein, il y a un « si ». « Si vous êtes vraiment », ça veut dire en fait, il est en train de nous dire, « si vous êtes ressuscité, vous devez porter des fruits. » Si vous ne portez pas des fruits, ah, il y a une question, est-ce que vous avez accueilli la résurrection en vous ? « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, » cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, voyez, quand Christ, votre vie paraîtra, voyez, le futur, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. Faites mourir, voilà, il le dit clairement. Faites mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, aujourd'hui, maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Que Dieu nous aide à porter des fruits, qu'ils peuvent être portés si nous aimons Dieu. Et nous pouvons aimer Dieu si nous le recevons entièrement, y compris ces lois qui déplaisent à notre chair. Que Dieu nous aide. Amen.